L'écho des gnous, votre guide dans le monde libre. Sur Radio Campus 106.6, le libre n'est pas une jungle. Le libre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des gnous.
Bonjour et bienvenue dans le 260.
Alexandre, deux secondes, t'es sur le micro 3 qui marche pas. Voilà,
bonjour, le micro fonctionne. Vous m'entendez toutes et tous. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans le 275e numéro de l'écho des gnous, l'émission qui vous explique l'informatique libre. Aujourd'hui, je suis comme toutes les semaines père avec Pierre. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Et nous allons donc vous expliquer l'actualité du libre des deux semaines écoulées. Et comme de coutume, on va commencer plutôt avec les nouvelles Internet et vie privée. Des relents d'antitrust, on avait déjà parlé, hein, ça commençait un petit peu à leur pendre au nez, mais Google pourrait subir le sort d'AT&T il y a de cela plus de 35 ans, ouais. Et le sort qui a failli être réservé à Microsoft, mais qui a échappé, c'est-à-dire un démantèlement pour cause de position dominante.
Et d'abus de position dominante.
Oui.
Attention, si tu es en position dominante mais que tu abuses pas, ça va, mais si tu abuses, forcément, là, ça te retombe sur le rable. Et donc on en a déjà parlé en août parce que c'était des rumeurs insistantes, on va dire, mais là maintenant ça se concrétise. Donc le ministère de la Justice américaine envisage le démantèlement de Google. C'est devenu rare, hein. Ça fait longtemps qu'ils n'ont plus parlé de démanteler une entreprise, mais là ils considèrent que le cas de Google est suffisamment grave.
Je crois que la dernière c'était Microsoft, hein. Les procès antitrust à la fin des années 90, du début des années 2000.
Oui, c'est la dernière fois qu'on en est parlé, la dernière fois qu'on l'ait fait, vraiment, je ne vois pas de quand ça date. Et donc, forcément, hein, Google dit, les propositions radicales du ministère de la Justice risquent de nuire aux consommateurs, aux entreprises et aux développeurs. Donc, à voir. Donc, le dernier démantèlement, c'était 1984, pour le démantèlement d'AT&T.
C'est un petit peu plus récent.
Bah, ça fait 40 ans, bon.
C'est l'exemple le plus connu. Hein.
Oui, c'est l'exemple le plus connu. Donc, rappel du principe, Google édite plusieurs produits, plusieurs services. Chacun devrait être géré par une entreprise séparée. Donc, il y aurait l'entreprise responsable du moteur de recherche, l'entreprise responsable des systèmes de recherche, l'entreprise qui développe le navigateur web, l'entreprise qui développe le système d'exploitation pour mobile, etc., etc. Dans le but d'arrêter les comportements clairement anticoncurrentiels qu'il y a maintenant, où Google, le moteur de recherche, et Google Publicité vont travailler dans la main pour promouvoir les services, mettons, de recherche de voyage de Google plutôt que les services d'entreprises concurrentes. C'est un abus de position dominante puisqu'une entreprise concurrente ne peut pas lutter à taille égale avec Google puisque Google est le seul à avoir ces accès-là directement.
Alors, question que je me pose, c'est dans le cas d'un démantèlement, est-ce que du coup ça oblige la maison mère à revendre des filiales? Parce que si c'est pour démanteler une entreprise, qu'au final on se retrouve avec le même actionnaire qui contrôle toutes ces entreprises, la séparation juridique peut induire des complications, mais au final...
Alors là, le choix réel, enfin, le choix de découpage n'a pas encore été fait, on est sur des théories seulement, mais Google, c'est déjà un groupe. C'est le groupe Alphabet qui réunit plusieurs entreprises dédiées aux différentes activités du groupe. Donc on peut supposer qu'ils vont effectivement demander une scission complète des différentes activités.
La scission, c'est-à-dire que...
Entreprise distincte, actionnariat distinct.
Donc après, il faudra donc du coup les revendre, trouver des acheteurs. Enfin, ça, c'est pas...
Ça se fera pas du jour au lendemain, c'est pas facile.
Il s'agit juste pas de juste dire hop, on revend Google, surtout que c'est quand même une entreprise d'une taille assez importante. Donc c'est plus gros que
le AT&T de l'époque, je crois.
Ouais, faut des gens pour... C'est pas tout de dire on revend. Hein. C'est comme les gens qui veulent privatiser l'audiovisuel public. C'est pas tout de dire on le vend, faut des gens qui l'achètent.
C'est ça.
Autre nouvelle sur le front monopolistique de Google, un juge fédéral, donc californien, mais fédéral, donc à l'échelle des États-Unis, oblige donc Google à ouvrir à la concurrence son magasin d'applications, donc le Google Play. Donc c'était suite à la plainte d'Epic Games, hein. Bon, on a déjà parlé fréquemment des démêlés d'Epic Games avec Google, et surtout beaucoup avec Apple, notamment.
Oui, c'est vrai. Il y a eu beaucoup plus de cas avec, autour de Epic contre Apple, mais effectivement, là, c'est... Moi, ce qui m'intrigue, par contre, c'est que cette conclusion a été prise dans le cadre de Epic contre Google, mais pas dans le cadre de Epic contre Apple. Donc, pour rappel, Epic, éditeur de jeux vidéo, souhaite pouvoir diffuser des applications sur mobile sans avoir à payer les taxes exorbitantes qu'imposent Google et Apple aux développeurs d'applications. Ils n'ont pas l'intention de payer 30%, voire plus. Je sais, c'est 30%, je crois que c'est sur la plupart des transactions, notamment dans les applications. On peut comprendre que pour un éditeur de jeux vidéo, où le principe surtout, c'est d'avoir beaucoup de petites transactions, ça rogne très vite l'ensemble de la marge. Et donc, Epic souhaite pouvoir diffuser ses applications sans passer par Google Play et le Play Store, et à l'inverse, l'App Store d'Apple. Donc là, la justice a donné raison à Epic Games, le comportement de Google et de l'abus de position dominante en imposant à tout le monde son application et en mettant des freins au développement, au déploiement, à l'installation d'autres magasins d'applications.
Oui, c'est possible, on peut utiliser FranDroid, notamment sur Android, mais je pense pas que ce soit dans le Play. En tout cas, moi, j'ai encore sur mon téléphone, alors je sais plus.
C'est plus compliqué, en tout cas, que d'utiliser le Play Store. C'est ça ce qui vient en avant. C'est la difficulté. Alors, donc là, il va y avoir des développements, donc on va voir. Ah oui, autre chose, les boutiques alternatives, aujourd'hui, sont bridées. Parce que les boutiques alternatives n'ont pas nécessairement accès à tout ce que Google a en termes de fonctionnalités pour ces applications. Je crois que si tu installes une application depuis un magasin alternatif, par exemple, l'application n'est pas certifiée, donc ça interdit toute application bancaire. Ce qui est un peu gênant pour le monde d'Android. Alexandre,
c'est F-Droid, pardon. Je cherchais le, c'est pas FranDroid, hein, je confonds oui. Avec. Excusez-moi, je cherchais.
Je crois.
C'est F, oui, je confonds, oui, je cherchais. F-Droid. Donc le magasin d'applications. Mais effectivement, quand vous cherchez une application, vous voyez que souvent, c'est des choses qui n'ont pas très maintenues.
Oui, c'est pas intéressant de diffuser des applications sur les magasins alternatifs, puisqu'ils sont très peu utilisés. Ils sont jamais mis en avant. Il peut même y avoir des freins à leur installation. Alors, avec
si
des écrans effrayants.
Si F-Droid est. Cherchez pas le bon. Est-ce que F-Droid est dans le Play?
Tu pourras chercher ça pendant la pause?
Je chercherai la pause.
Oui, ce sera mieux.
Ici, c'est priorité au direct, monsieur.
Oui,
ici.
Voilà, non.
Attention, l'information n'attend pas, monsieur Pierre. Donc non, F-Droid n'est pas dans le magasin de Google Play.
On continue pour les actualités?
On continue avec les actualités. Et on veut parler de WordPress.
Oui, petit drama autour de WordPress. Alors, WordPress, qu'est-ce que c'est? Vous l'avez tous déjà utilisé? Tous, je peux l'affirmer. Alors,
utilisé en tant que client, c'est-à-dire en tant qu'utilisateur de site web.
Mais voilà.
D'ailleurs, WordPress héberge également notre podcast.
C'est ça, c'est un WordPress installé sur une machine chez moi.
Je rappelle, ecodegnou.org, de l'auto-hébergement fait maison, de l'artisanal, messieurs, dames.
Et donc, le WordPress, c'est un moteur. Alors, à la base, c'était fait pour faire surtout des blogs. C'est comme ça que ça a été connu, mais c'est un moteur qui est très utilisé pour créer des sites web. On peut créer, effectivement, on peut aller du simple blog au site commercial complet. Il me semble que certains grands commerces utilisent WordPress aujourd'hui. Et c'est un logiciel libre, donc c'est toujours plaisir. Mais il se trouve que c'est un logiciel libre, mais il y a 2-3 problèmes autour du CEO, enfin du PDG, du coup d'une entreprise qui s'appelle Automatic. Et qui est le ce PDG est le créateur de WordPress à la base, il s'appelle Matt Mullenweg, et il est parti dans un conflit juridique avec WordPress Engine, WP Engine. Et donc, la situation est assez complexe, mine de rien.
Peux nous expliquer ce que c'est que WordPress Engine?
Alors, WordPress Engine, c'est en fait, Automatic accuse WordPress Engine d'être un cancer, de phagocyter des éléments, de phagocyter le projet WordPress. Et donc, au point qu'ils disent que WordPress Engine n'est pas WordPress, etc. Alors, j'ai juste retrouvé le statut exact de WordPress Engine, parce que j'avoue, c'est. Voilà, WordPress Engine, c'est une plateforme d'hébergement de WordPress. Ils hébergent des WordPress pour les gens. Vous n'avez pas envie d'avoir votre serveur chez vous, de louer un serveur, vous pouvez aller chez eux.
C'était très populaire à la grande époque des blogs.
Exactement, même encore aujourd'hui, c'est populaire. Et est-ce que c'est, enfin, est-ce que c'est en, c'est a priori, c'est respectueux de la licence GPL. Et donc aujourd'hui, il y a des attaques sur le fait que a priori WordPress Engine ne respecterait pas la licence. Et ben, il y a des accusations. Voilà, ils disent que c'est du parasitisme, etc., etc. À l'inverse, WordPress Engine dit que ben non, on demande de cesser la diffamation qui est faite contre eux par le PDG d'Automatic. C'est une bonne grosse bataille, mais c'est à un point où le site, les serveurs WordPress.org, donc qui hébergent le projet original et les plugins, extensions, etc., a mis en place des blocages contre WordPress Engine en disant bah non, ça c'est des IP de WordPress Engine, on les refuse.
Oui, c'est quand même pas.
C'est pas normal.
C'est pas très libre comme.
Bah non, mais WordPress.org.
Comme la non-discrimination, c'est quand même une des pierres angulaires du logiciel libre.
Oui, et bien là, c'est ce qui a été fait par donc le PDG de Automatic, donc créateur de WordPress. Et la situation est vraiment tendue. Il y a des démissions dans tous les sens, un peu partout. Enfin, c'est vraiment là, la situation est assez compliquée.
Mais c'est quoi le modèle économique de WordPress? Je suppose que c'est une.
Il y a un service d'hébergement aussi chez WordPress. Et donc, bah forcément, WordPress Engine est un concurrent pour eux.
Est-ce qu'il y a deux... Parce que pour moi, quand tu fais un WordPress sans l'héberger toi-même, ou en tout cas, te trouver ta propre solution d'hébergement, c'était sur le site de WordPress. En fait, il y a la concurrence sur l'hébergement de WordPress.
C'est ça. Voilà. Donc, tu peux aller sur wordpress.com.
On fait du logiciel libre, il faut accepter qu'il y ait de la concurrence.
Ben, c'est ça. Aujourd'hui, si tu vas sur wordpress.org, on te donne le logiciel, on te donne le code source, la documentation, etc. Si tu vas sur wordpress.com, on te donne un plan à 4, 8, 40 euros par mois pour héberger pour que ton WordPress soit hébergé. C'est un modèle qui fonctionne, mais il faut aussi accepter, ben, effectivement, il peut y avoir de la concurrence, et là, la concurrence WordPress Engine n'a pas été appréciée. Et c'est assez compliqué comme situation, c'est assez triste surtout de voir ça. Ben, puis, c'est quelque chose dont on parle régulièrement. C'est un logiciel qui est sous le contrôle d'une seule entreprise quasiment. WordPress, finalement, est largement sous le contrôle d'Automatic à travers son PDG. Et on voit aujourd'hui ben, les dérives que ça peut, provoquer.
On retourne avec Google, avec Chrome donc, qui désactive les API permettant d'utiliser uBlock Origin, donc un bloqueur de pub, qui est le principal, le plus connu. Avant c'était AdBlock, le premier connu. Maintenant c'est uBlock. Donc on s'y attendait aussi.
On en a déjà parlé à plusieurs reprises.
Mesure où les revenus publicitaires est quand même la principale source de chiffre d'affaires de Google, donc le vente de données personnelles, donc forcément Chrome appartenant à Google, donc en gros le principal un des principaux fournisseurs de contenu, enfin pas de contenu mais plutôt de services sur Internet, de services de mail, de services de vidéos en ligne avec YouTube, est également actuellement le leader sur le marché des navigateurs. Ça n'a pas toujours été le cas puisque Chrome est un produit qui a été un peu lancé ex nihilo. Même si techniquement c'est pas ex nihilo puisque ça se base sur le kit.
On va pas revenir sur toute l'histoire de Chrome. Bon, façon, ça a été imposé à tout le monde aussi. Ça n'a pas été passé innocemment.
Donc voilà, dans les exemples d'abus de position dominante, donc Google, puisque ça n'arrange pas leur business model, empêche les extensions de bloquer la pub. Alors il reste des alternatives. On peut toujours utiliser Firefox.
Leur défense, c'est de dire que on fournit une nouvelle API pour le blocage de publicité. C'est juste que cette API est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus limitée que l'ancienne. Alors ils disent oui, c'est pour améliorer les performances, pour améliorer ceci, cela, mais clairement la raison c'est pouvoir faire empêcher les bloqueurs de publicité les plus efficaces, à savoir donc ce qui est fait avec uBlock Origin, plutôt que de dire bah non, on veut pas de bloqueurs de pub, c'est on veut bien des bloqueurs de pub, mais c'est juste que pour que ce soit mieux, il faut bien passer par le chemin balisé.
Bloqueur de pub, mais qui bloque pas toutes les pubs.
Qui pourra pas tout bloquer forcément. C'est drôle.
X, donc le réseau social, donc le nouveau nom de Twitter, j'appelle toujours Twitter, au sens donc du Digital Markets Act. N'est pas un portier, n'est pas un gatekeeper en bon anglais. Donc c'est pas une plateforme suffisamment importante pour avoir assez d'influence sur le consommateur final.
Voilà, il est estimé que en Europe, en tout cas, Twitter n'est plus assez important pour être contrôleur d'accès. Voilà, c'est le terme.
Ce qui fera plaisir à Monsieur Musk.
Ce qui fera plaisir à Monsieur Musk, et en même temps, ça montre le déclin aussi assez incroyable de Twitter ces dernières années, depuis le rachat par Elon Musk, parce que justement, ils ont perdu des usagers, ils perdent tout. Et donc leur situation économique, au passage, est en train de chuter.
Musk est un génie des affaires, c'est bien connu.
Oui, c'est bien connu. Donc, je ne sais pas sur quelle base exactement ils ont décidé de sortir X de la restriction, parce que c'était prévu à la base. Au passage, on rappelle que la dérive de Twitter depuis le rachat par Elon Musk a fait fuir la plupart des clients publicitaires.
Ouais, ce qui nous empêche pas d'avoir. Vous avez de la pub, mais un peu de la pub de. Bon. C'est quand même beaucoup de gens intéressants qui continuent à tweeter, alors même si c'est.
Les hommes rempli de, aussi.
C'est rempli de complotistes, c'est rempli de fachos. Hein. C'est quand même un nid à trolls d'extrême droite et un nid à trolls libertariens, mais voilà, il y a quand même des passionnés ou des qui.
On peut en parler. Tweetent, Elon Musk a clairement mis X au service de Donald Trump, là, ces derniers mois.
Oui. Ah, donc, quand en plus on voit qu'il y a TikTok, Facebook, Instagram, donc là je suis sur le site de l'Union Européenne, de la Commission Européenne, WhatsApp Messenger, donc le client, enfin le service de chat de Facebook, il y a YouTube, il y a Google Search, Google, hein, tel qu'on le Google historique, les navigateurs Chrome et Safari, tu n'as pas Firefox, Safari mais pas Firefox, bon, surpris. Pour les publicités, il y a Google, Amazon et Meta, les systèmes de notation Android, iOS, iPadOS et Windows, enfin Windows PCOS, mais enfin Windows, hein, tout simplement. Intermédiation, il y a Google Maps, Google Play, Google Shopping, il y a quand même trop de chez Google, Amazon Marketplace, l'App Store de Google, Booking.com et Meta Marketplace. Il y a quand même pas X, c'est vrai que c'est surprenant qu'il soit pas.
Non, c'est parce que c'est devenu trop petit sur le marché européen. Twitter est en chute libre. C'est les hommes politiques l'ont pas encore réalisé. Je sais pas pourquoi beaucoup continuent à tweeter là-dessus. En fait, ça se pète la gueule parce que aux États-Unis, ça tient parce qu'il y a beaucoup d'extrême droite, il y a beaucoup de trucs, c'est encore fortement mis en avant. En Europe, X n'a jamais été aussi gros qu'aux États-Unis et c'est pas prêt à s'améliorer vu leur situation.
Oui, c'est vrai que c'est utilisé beaucoup à rôle politique et de polémique, effectivement. Il n'y a pas le côté familial hein, qu'il peut avoir, Facebook, qui a encore beaucoup de gens qui communiquent avec leur cercle relationnel via Facebook, hein, même si sa tendance est un peu plus âgée. Au TikTok, je ne suis jamais utilisé TikTok, mais il paraît que chez les ados, c'est le réseau le plus utilisé. C'est vrai qu'il n'y a pas Snapchat non plus. Snapchat, il y a eu une bulle, j'ai l'impression. C'est vite retombé. On passe aux actualités sécurité et quelques news diverses et variées. Après un premier morceau de musique, nous allons écouter Jonathan Dimmel, Learn From Me. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campuslib.com.
Thousand ways, 100 states, grown tired of all the ways I thought that I had known. So many spaces, many faces, incidents in many cases with no home. And I wish that I have made all the right calls, not decide too late. But I do the best I can, all with the little that I have. And if you're listening, I pray you've become something. Why not change, but all I ask, please learn from me. As far as I know, we only get one try, one chance, one lifetime to get this right. So take thy road.
not below, and don't go down, don't turn around without a fight. And I've seen the way you're made, I'll fight to not let it fade away. You deserve much better, I swear I'll give you the best I have. Dream.
C'était Jonathan Gimel, Learn From Me. Vous écoutez l'écho des Gnous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuslille.com. C'est la deuxième partie des actualités. On va parler sécurité, mais pas au sens d'Eric Ciotti ou ses comparses, sécurité informatique. Et on va parler d'Internet Archive. Donc, vous connaissez peut-être ce site qui archive Internet. Donc, vous pouvez, sur ce site, où c'était le nom d'un site, celui que vous voulez, et puis vous allez avoir donc une capture de ce site à différentes époques, ça peut remonter jusqu'à très loin. Donc Internet Archive a été victime d'une attaque par déni de service, DDoS.
Et pas que, il y a aussi des fuites de données, enfin, ça a été une très grosse attaque contre ce service. Et donc, moi, je trouve ça assez choquant, finalement, de voir que...
C'est un site à but non lucratif.
Voilà, c'est un site à but non lucratif. C'est pas que archiver les sites web, parce que déjà, archiver les sites web, le site web, c'est quelque chose qui disparaît. Vous avez, si c'est lancé par une entreprise, si c'est lancé par un particulier, ou par un particulier, l'entreprise disparaît, le particulier arrête son activité ou autre, le site web peut disparaître, et donc tout le contenu qui a été créé, ça a de la valeur, de la culture, c'est de la connaissance qui s'efface. Et donc c'est contre ça que Internet Archive, ils essayent aussi d'archiver les logiciels, les jeux vidéo, d'il y a 40 ans, d'il y a 50 ans, d'il y a 30 ans. Ils essayent d'archiver des livres. Donc il y a le projet de Open Library pour ça. Et tout ça s'est fait attaquer, donc on n'a pas d'idée de qui a attaqué. Donc il y a eu plusieurs attaques. Donc il y a eu une attaque par DDoS, il y a eu un effacement de la page web, donc avec de l'injection de JavaScript malveillant, et notamment la récupération de login et mot de passe haché d'utilisateur. Parce qu'on peut créer des comptes sur archive.org. Pour certaines opérations.
Alors, rappelle qu'en France, il y a la politique du dépôt légal. Donc, le dépôt légal, c'est que chaque livre, chaque ouvrage écrit, donc livre, revue, journal, doit donc faire l'objet d'un dépôt à la Bibliothèque nationale de France. Et donc, elle organise également un dépôt légal pour les sites Internet.
Oui.
Donc, elle collecte un peu comme archive. Alors, à la priori, c'est les bibliothécaires qui décide, donc y a une sélection éditoriale qui est faite.
Oui, mais là, archive.org, il n'y a pas de sélection.
Oui, on veut dire que archive.org n'est pas l'unique site qui organise ce travail. Et que lui, il a ce côté, je dirais, au maximum exhaustif.
Mais là aujourd'hui, je comprends, et personne ne comprend pourquoi avoir attaqué ce site, parce que il n'y a pas d'argent derrière. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent à gagner à attaquer archive.org. Ça emmerde juste des gens qui font bien leur taf et qui ne sont même pas payés pour faire ce travail-là. Je ne comprends vraiment pas que ça ait été pris comme
cible.
Il y a
des gens qui ont comme plaisir de nuire à leur prochain, Pierre.
Oui, ouais, mais c'est assez ridicule quand même.
Des systèmes européens
Gapt.
J'ai rajouté un R.
Oui.
J'ai le droit. Pirater.
Oui, on va parler un petit peu du coup de ce que c'est le AirGap, parce que ça m'a toujours fait assez rire de voir ça comme excuse de sécurité, et puis ben là on a un bel exemple de ça marche pas. Donc, comment qu'on fait quand on a un système hautement sensible? On parle des systèmes de contrôle de centrales nucléaires, ou de contrôle du réseau électrique, ou des trucs vraiment, vraiment chauds.
Ah, déjà, on le connecte pas à Internet.
Eh bien, la stratégie qui est la ligne de défense qui est mise en avant par, notamment dans le cas du nucléaire, par les opérateurs des centrales, c'est de dire oui, mais nos systèmes sont air-gapped. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de l'air entre le système et tout autre système, ce qui signifie qu'il n'y a pas de connexion
physique.
Comment un virus pourrait-il venir sur un système qui n'est connecté à rien? Voyons, c'est impossible. Et donc, on a eu la démonstration que, alors ça s'est produit a priori deux fois, on en a la preuve maintenant, ça s'est produit en Biélorussie, ça s'est produit auprès d'une autre organisation gouvernementale européenne, et ça s'est produit entre mai 2022 et mars 2024 pour cette autre organisation européenne.
Alors, si en Biélorussie, je suis quand même surpris que ça soit sorti. C'est quand même une dictature assez dure. Hein,
oui, mais en fait, ça a été analysé, et donc ceux qui ont analysé ont publié un papier pour dire « ça a été trouvé ». Heureusement que ça a été fait. Et donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que des outils spécifiques ont été développés pour cibler ces systèmes-là. Et les outils en question se propagent par Internet sur les ordinateurs et ensuite vont chercher à se propager à l'ancienne.
Avec une disquette 3,5 pouces.
À l'époque, c'était avec des disquettes et maintenant, c'est avec des clés USB. Tout simplement. Et donc, ces systèmes air-gapped...
Normalement, sur un système, t'es pas censé mettre une clé USB.
Sauf qu'un système qui ne communique pas avec l'extérieur, aujourd'hui, c'est très rare. Même pour... Ton système, il génère un rapport, tu vas le sortir comment
Oui, mais tu connectes une clé USB, elle n'est pas censée aller sur Internet.
La clé USB ne va pas sur Internet, mais comment tu peux pas garantir que la clé USB n'est jamais allée sur un ordinateur qui est allé sur Internet?
Normalement, c'est bien fait, normalement, si.
Oui.
C'est qu'il y a un problème de procédure, là.
Il y a des problèmes de procédure.
Il y a un gros problème de procédure.
Ton problème devient un problème d'humain. Ouais, c'est un humain qui a fait une erreur. C'est vrai. Donc tu penses que les humains sont infaillibles et ne feront jamais une erreur, Alexandre. J'apprécie la... Tu crois en l'humanité à un point que j'estime pas ça de ta part. Pardon. Et donc, la protection miracle, les machines ne sont pas connectées, ça ne marche pas. Parce que vous avez des humains qui utilisent les machines et qui vont transférer les fichiers d'un point A à un point B et qui vont pouvoir faire des erreurs. Ou vous allez avoir un opérateur qui va venir appliquer une mise à jour et cet opérateur-là aura été lui aussi cible d'attaque. Et donc, vous ne pouvez pas vous en sortir en disant juste « Mais non, mon système n'est pas connecté, tout va bien ». Alors, je sais pas, la dernière fois que j'en ai entendu parler au niveau des centrales nucléaires, c'était il y a quand même 4-5 ans au moins. C'était dans un documentaire fort intéressant sur le sujet. Je sais pas où est-ce qu'on en est là-dessus aujourd'hui. Est-ce qu'on continue dans cette logique de dire non, c'est pas connecté, il n'y a pas de danger? Ou est-ce qu'on va plus loin en disant c'est pas connecté, mais on fait quand même tout ce qu'il faudrait faire comme protection si on était sur un système connecté? À savoir faire des mises à jour, faire des audits, des changements sur la machine. Il y a tout un ensemble de contrôles dont on se passe en disant non, c'est bon, la machine, il ne peut rien se passer. En fait, non, il faut les faire dans tous les cas.
Donc les développeurs, change de sujet, sans transition, donc les développeurs européens d'applications distribuées via l'App Store, donc l'App Store de Google, vont devoir...
D'Apple aussi.
D'Apple, oui, j'ai ma fourche à langue, excusez-moi. Non, oui, c'est l'App Store d'Apple qui était visé. Vont devoir donner donc leur numéro de téléphone et leur adresse. Alors, ça paraît sain à première vue qu'on donne les coordonnées. Quand si c'est une entreprise, c'est pas un problème. Sauf qu'il y a certains développeurs qui font ça... personnel, donc ils n'ont pas forcément de coordonnées professionnelles à donner, donc ça leur obligerait à donner leur adresse personnelle et leur numéro de téléphone personnel.
Tout à fait, et c'est des sujets qu'on a déjà abordés ici. En fait, le cœur du problème, c'est autour du DSA et un petit peu les principes du CRA en Europe, donc deux projets de loi qui ont un objectif commun qui est tout à fait louable, c'est de sécuriser et de responsabiliser finalement la diffusion de logiciels sur les plateformes. Donc, dans le cas de cette restriction qui est proposée par Apple, c'est pour respecter le DSA, parce qu'on considère que les développeurs qui se font de l'argent, et oui, distribuer une application sur l'App Store, il y a de l'argent en jeu, ces développeurs-là, leurs coordonnées doivent être connues. On doit pouvoir contacter la personne, ça ne doit pas être un inconnu derrière un pseudo. C'est assez logique, il y a des transactions, mais on doit savoir à qui va l'argent. C'est un besoin de transparence. Et au-delà de ça, donc là, je l'évoquais juste avant le CRA, il faut s'assurer que la personne derrière un projet soit réelle pour qu'elle puisse faire les mises à jour quand c'est nécessaire, suivre la sécurité, etc. Et tout ça aujourd'hui, ben, c'est un système basé uniquement sur les pseudonymes, ça ne marche pas. Donc moi, je trouve ça assez normal. Après, ben, oui, il faut partager les informations, je peux comprendre que ça gêne les plus petits développeurs, mais en fait, quelle est l'alternative dans ce cas? Comment faire pour avoir des responsabilités sans avoir de contrepartie? C'est plus compliqué.
Avant de parler logiciel, 2-3 news diverses et variées. Donc, tu en avais parlé lorsqu'on avait évoqué X, donc c'est mis au service de Donald Trump, c'est plutôt son propriétaire. Elon Musk, qui s'est mis au service de X, puisqu'en plus, non seulement il se fait de Donald Trump, et lui donne, je crois, 25 millions de dollars, je crois. Il a fait une grosse donation.
Oui.
On savait, on connaît la proximité entre les deux personnes, à tel point que là, Donald Trump ambitionne, en cas de malheur, de victoire des républicains aux prochaines élections américaines, qui vont pas tarder à arriver, là, quand même, donc d'en faire son ministre de la technologie.
Il veut aussi le mettre à la tête d'une commission sur l'efficacité du gouvernement, gros, pour démanteler le gouvernement fédéral autant que possible.
Voilà.
C'est assez chaud, la situation là-dessus, parce que, effectivement, donc, comme on l'a dit, Twitter est beaucoup utilisé aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe et en France. Et là, ce qui est fait, en fait, c'est vraiment, ça va très très loin. Notamment, Elon Musk veut rémunérer des internautes qui seraient capables d'obtenir des informations sur des électeurs susceptibles de soutenir Trump dans les états pivots.
Ouais, ils achètent des voix.
On n'est pas loin de l'achat de voix. C'est des influenceurs. En fait, il y a des mises en avant de complotistes, il n'y a pas d'autre mot, de gens d'extrême droite ou de droite extrême. Les mouvements néo-nazis et les conspirationnistes aussi sont bien mis en avant. C'est vraiment, on va vraiment loin. Et ça va aussi jusqu'à proposer, comme on l'a dit, l'achat de voix. C'est assez chaud, en fait, la situation là-dessus. Et clairement, Twitter est une machine maintenant au service de l'extrême droite américaine. Pas d'autres mots.
On passe à Amazon qui aussi a une procédure antitrust à venir aux États-Unis.
Tout à fait, parce que on le voit pas trop nous en Europe, on a quand même encore un peu de concurrents à Amazon, mais aux États-Unis la stratégie d'Amazon a plutôt bien marché, donc à savoir la stratégie habituelle de toutes les startups, c'est-à-dire on fait du dumping sur les prix et une fois qu'on a suffisamment de parts de marché et que les concurrents ont disparu, on augmente les prix. Et donc là, c'est ce qu'Amazon a fait ça pour s'imposer. Et il y a des pratiques du coup maintenant pour essayer de s'assurer qu'il n'y ait pas de concurrents. Notamment, ce qui est fortement reproché à Amazon, c'est tout le système de toutes les règles qui sont imposées aux revendeurs. Donc notamment, si un vendeur de produits décide de vendre son produit moins cher que chez Amazon ailleurs, il se fait sanctionner. Notamment, les produits disparaissent. Enfin, ils sont relégués à la dernière page du catalogue d'Amazon.
C'est Booking.com en France qui s'est fait taper sur les
Tout
doigts.
À fait.
Donc, puisque Booking exigeait donc que les hôtels fassent le meilleur prix sur leur plateforme, et donc la loi française maintenant interdit à Booking ce genre de clause. Donc les hôtels ont le droit de vendre moins cher. Ils ne peuvent pas sanctionner les hôtels pour avoir vendu moins cher le prix de leur chambre directement.
Autre exemple aussi de pratique anticoncurrentielle d'Amazon. Lorsqu'un revendeur vend un produit moins cher ailleurs, il peut aussi se voir le prix des services Amazon augmenter. C'est un petit peu du chantage, du coup. Si tu oses vendre moins cher ailleurs, tu vas devoir, ça va te coûter plus cher de vendre chez nous.
Ouais, c'est pratique anticoncurrentielle.
Exactement. Hein. Et celles qui sont dénoncées depuis très très longtemps. Il y a eu des cas où des revendeurs se retrouvaient à verser près de 50% de leur chiffre d'affaires à Amazon. 50% du chiffre d'affaires, ça commence à faire beaucoup quand même.
Après, ces pratiques ne sont pas très loin de celles de la grande distribution en France. Hein.
Tout à fait.
Là, les 50%, c'est comme les marges arrière dans la grande distribution. Hein. C'est le même système. Hein.
Et des commerçants sont condamnés pour ça, pas assez souvent en France, mais régulièrement quand même.
Et en France, on a aussi une loi qui interdit de vendre à perte. Après, Amazon, le fait est que vous échappez comme beaucoup aux lois françaises puisque vous achetez un petit peu à des vendeurs partout dans le monde.
Exactement.
Une dernière pour la route, donc 15 organisations dont la Quadrature du Net vont donc attaquer devant le Conseil d'État l'algorithme de notation des allocataires de la CAF, donc un algorithme qui fait en sorte que les personnes les plus pauvres, les plus précaires, donc celles aux plus faibles revenus, les personnes qui touchent le RSA ou l'allocation adulte handicapé ont plus de risques d'être contrôlées. Une stratégie discriminatoire. Donc les gens qui en ont le plus besoin, c'est ceux qu'on va cibler le plus. Voilà. C'est quelque chose d'antisocial, quelque chose de vexant, donc une vexation inutile envers les publics précaires. Donc on souhaite meilleure issue possible à ce recours contre la CAF auprès du Conseil d'État. On écoute un second morceau de musique avant de passer aux actualités sur les logiciels libres, bien évidemment. Nous allons écouter Neon Nightclub, Be Without You. Vous écoutez les codes nous sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre et campusil.com.
Everything out there, babe.
C'était Neon Night Club, Be Without You. Vous écoutez les Codez-nous sur Radio Campus en 6,6, la radio numérique c'est campuslib.com. C'est la partie logiciel libre pour la plupart des actualités. Et on va commencer par un projet cher à Pierre, le projet KDE et Plasma 6.2, son interface graphique qui est sorti.
Tout à fait. Alors, c'est assez ironique parce qu'il y a, je crois, 4 semaines ou 6 semaines, on parlait de la sortie de la version 6.1 qui est sortie pendant l'été. Et donc là, c'est la 6.2. Donc, à nouveau, beaucoup de nouvelles fonctionnalités, surtout ciblées à l'utilisation des graphistes qui utilisent des tablettes pour faire du dessin sur ordinateur. Amélioration aussi, toujours par rapport aux questions de graphistes, la meilleure gestion des couleurs, notamment des écrans HDR, pour ceux qui connaissent et à qui ça parle. Sinon, si ça ne vous parle pas, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est des trucs de graphistes ou de professionnels de la photo surtout. Pas mal d'améliorations aussi sur la gestion de l'économie d'énergie, un petit peu, l'accessibilité, ce genre de choses. Donc, c'est toujours assez intéressant de voir ces changements-là.
OpenBSD 7.6 est sorti. C'est vrai qu'on parle assez peu des sorties d'OpenBSD.
Aussi, oh, dès qu'il y en a une qui sort, on en parle quand même.
Ouais, je pense qu'on parlait de FreeBSD, j'ai l'impression. Mais bon, faites pas mémoire, Pierre.
Je pense qu'on est. En tout cas, j'essaye vraiment d'en parler à chaque fois. Que ça
sort. Amélioration du support, donc, du matériel moderne.
Oui, comme d'habitude. Mais d'abord, avant, juste rappeler un peu ce que c'est OpenBSD. Oui. Donc, rappel d'histoire, les BSD, c'est des systèmes Unix, concurrents donc c'est des systèmes qui sont concurrents de Linux, qui sont libres. Donc, les trois principaux sont FreeBSD, NetBSD et OpenBSD. OpenBSD est clairement axé vers la sécurité avant tout. Donc, c'est un système qui se veut le plus sécurisé possible, à minima dans son installation par défaut, avant que vous mettiez des services éventuellement.
Oui, c'est un petit peu un peu de marketing, c'est qu'ils nous disent on a le système le plus sécurisé dans l'installation par défaut, mais bon, effectivement, si vous n'ouvrez pas grand chose comme service, forcément, c'est sécurisé.
Il y a quand même pas mal d'éléments de sécurité proactifs qui sont mis en place dans le système, notamment il y a eu des choses qui avaient été décidées par les développeurs d'OpenBSD qui sont avérées vraies 10 à 20 ans plus tard quand tout le monde s'est rendu compte que, ah tiens, mais en fait, il y avait vraiment une faille de ce côté-là qui était exploitable. Donc, c'est pour les plus paranoïaques ou pour ceux qui souhaitent mettre du matériel, notamment des routeurs réseau ou autres, où il y a un vrai besoin de sécurité fort, OpenBSD est un bon système pour ça, et donc la dernière version est sortie.
On va parler moins technique et plus artistique avec Inkscape, donc 1.4 qui est sorti, donc qui est un logiciel de dessin vectoriel.
Tout à fait.
Donc, on n'est pas graphiste.
On n'est pas graphiste. Donc, petit rappel sur la différence entre dessin par pixel et par vecteur. Un dessin par pixel, vous avez une image de 100 par 100 pixels, vous pouvez choisir la couleur de chaque point, mais du coup, quand vous agrandissez l'image, les données qui n'existent pas, elles ne peuvent pas être inventées de ex nihilo. Alors que quand c'est du vectoriel, vous dites j'ai une courbe d'un point 1 à un point 2, et ça fait une belle courbe, et que vous agrandissez ou réduisez l'image, la courbe reste jolie, sans pixelisation justement. Et donc Inkscape, c'est la solution libre de dessin vectoriel, c'est la référence disponible sur la plupart des systèmes d'exploitation. Donc là, la version 1.4 est sortie ce mois d'octobre. Alors on n'est pas des graphistes comme on l'a dit, donc ça va être difficile pour nous de parler de tout ce qu'il y a de mieux. Il y a des changements un peu partout, des changements d'utilisabilité, des mises à jour techniques, des changements de performance. Il y a de tout, il y a à boire et à manger. Et donc, pour ceux qui sont intéressés par ce genre de solution, ou juste qui n'auraient pas connaissance de l'existence de ce logiciel de dessin, n'hésitez pas à acheter un œil, ça peut être une excellente solution honnêtement, on peut faire de très beaux dessins avec ça. Et ça permet de créer des fichiers, donc c'est le format SVG que vous avez peut-être déjà pu voir sur des sites web, sur des collections de clipart, par exemple. Si vous voulez dessiner des clipart, ça peut être une solution.
Windows 7, ça y est, n'est officiellement plus du tout supporté. Plus supporté depuis 2020, mais bon, tu peux encore avoir un peu de support étendu.
Ah non, mais il y en avait encore sans problème. Il y avait une version de Windows 7 qui était encore supportée jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Mais ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de support de Windows 7, il s'agissait de la version post-ready, donc la version qui était destinée à la base surtout aux distributeurs de billets. Parce que les distributeurs de billets tournent avec des systèmes d'exploitation, notamment du Windows, et donc il y avait un Windows 7 qui était spécifiquement mis à jour pour ces machines-là, et donc ça y est, c'est terminé, il n'y a plus de Windows 7 aujourd'hui. Donc je ne sais même plus de quand date Windows 7 à la base, je n'ai pas révisé mes dates de sortie de Windows, je crois que ça...
2010, un truc comme
2010,
ça.
Ouais, donc ça a 15 ans. Putain, pendant 15 ans, ils l'ont mis à jour, quoi, les mecs. C'est assez chaud quand même comme travail. Et donc, ça y est, là, maintenant, c'est terminé. Il n'y a plus de Windows 7. La suite, ce sera Windows 10, Windows 11. Avec, pour rappel, Windows 10 qui sera bientôt plus supporté. Et les plans de Microsoft pour Windows 10 sont un peu particuliers. Ils prévoient de proposer un support par abonnement si vous ne souhaitez pas mettre à jour vers Windows 11. Y compris pour les particuliers.
Je pense pas qu'il y ait beaucoup de particuliers qui vont acheter du support. Parce que payer pour la sécurité, c'est quand même pas le fort des particuliers.
Non, mais voilà, c'est la stratégie qu'envisage Microsoft.
Le client mail Thunderbird, donc de la fondation Mozilla, est en train d'être porté sous le système Android, donc système pour smartphone, et il est bientôt prêt, Pierre.
Tout à fait. Donc, c'était une grosse annonce d'il y a 2 ans. En fait, il y a 2 ans, les projets Canine Mail et Mozilla Thunderbird se rejoignaient. Donc, rappel, Thunderbird, lecteur de mail de Mozilla pour ordinateur de bureau. Et donc, la fusion des deux a eu lieu il y a 2 ans et la bêta commence à apparaître et on peut la tester. L'annonce est sortie. Ils demandent de l'aide pour tester. Là, cette semaine, la première release candidate, donc un peu plus stable qu'une bêta, pas encore une version finalisée, la première release candidate devrait sortir. Donc on n'a pas encore trop de capture d'écran, j'ai pas encore trop cherché à quoi ça ressemblait pour l'instant. Mais voilà, ça y est, enfin Thunderbird pour Android qui sort comme prévu.
Merci Pierre pour les actualités. On se retrouve pour la dégeekalisation après un nouveau morceau de musique. Nous allons écouter JK Manage, Walk Through My Door. Vous écoutez les codes GNU, pardon, sur Radio Campus 106,6, la radio numérique terrestre, et campuskill.com. Tell me that you've been down. I can make you feel safe and sound. You're welcome anytime you like. I love it if you stayed all day. I can't help you feel like yourself again. When I was down, you stayed a while. Now it's my time to shine. If you come around, I can make you smile. Walk through my door, make yourself at home. Some music and drink some wine. I feel pretty sure we're gonna have a real good time. We can watch the shows that made us laugh. I wanna help you lose that big dark cloud. I can fix your heart, make it sing out loud. C'était J.K. Minage, Walk Through My Door. Vous écoutez l'écho des gnous sur Radio Campus 106.6, la radio numérique et campusil.com. C'est l'heure de la séquence que vous attendez toutes et tous, c'est l'heure de la dégeekalisation. Pierre, tu vas nous parler de Wabi. Donc si je lis Wikipédia, les Dirias ou les Chocoteras sont des aborigènes de la Caraïbe.
Ok, ça va, ça va spoiler le bon article.
Ah, donc, quoi... disais que je ne sais pas ce que ça faisait lors d'une dégeekalisation.
Tout à fait, non, on va parler d'antiquité, pour le coup, on va parler d'informatique des années 90, parce que ben, c'est une petite histoire que...
Ben, j'aime bien parler de l'informatique des années 90.
Mais non, là, celle-là, elle est assez intéressante, cette histoire-là, et se dire si ça avait abouti, ça aurait pu considérablement changer la donne.
Donc, faisons des uchronies, l'uchronie des gnous.
C'est ça. Et donc, on va parler de Wabi. Wabi, qu'est-ce que c'est? On va placer un peu le contexte. Donc, nous sommes au début des années 90, fin des années 80, début des années 90. Windows 3.0, la première version à succès de Windows, est sortie, et effectivement, pour le coup... c'est un succès, contrairement à toutes les versions précédentes. Beaucoup d'entreprises commencent à développer des logiciels pour Windows. C'est la fête pour Microsoft. Mais Windows est basé sur DOS et ça cible du coup les machines des particuliers, pas les machines des professionnels. Les professionnels sont des gens sérieux qui utilisent du matériel sérieux. On ne va pas utiliser un PC, on va utiliser une station de travail. On va utiliser une station de travail avec un système type Unix, on va utiliser une machine Sun, HP, IBM... SCO, il y a plein de fabricants de machines et de systèmes d'exploitation spécifiques pour ces machines-là et qui sont conçus vraiment pour l'usage professionnel et qui sont hors de prix. Et toutes ces entreprises-là se disent « Notre marché est protégé de toute façon, mais ça pourrait peut-être être pratique de laisser les gens lancer des applications Windows sur nos plateformes. » Et donc, c'est là qu'est apparu chez Sun Microsystems, c'est là qu'est apparu Wabi. Wabi signifie Windows Application Binary Interface, et donc ce projet-là, c'est comme ce que fait Wine aujourd'hui, le but était de lancer des applications Windows, conçues donc pour ordinateur PC classique de l'époque, sur des machines Solaris, donc conçues avec des processeurs qui n'avaient rien à voir, etc. Donc il y avait toute une couche de traduction du code.
Solaris qui est l'Unix de Sun Microsystems.
Exactement. Qui est plus ou moins décédé aujourd'hui, hein, mais on ne va pas revenir sur la tragédie du rachat par Oracle. Et donc, Wabi est sorti, donc les premières versions sont sorties les premières démonstrations en 92, les premières annonces en 93 et des évolutions dans les années qui ont suivi. Et ça marche plutôt bien, c'est plutôt une bonne solution. Mais il y a un problème, c'est que cette technologie, comme Wine aujourd'hui, se base sur l'API, les fonctionnalités exposées par Windows aux applications. Et donc, ça cherche à réimplémenter cette API. Le problème, qui a été d'ailleurs bien documenté dans le cadre du procès Microsoft pour antitrust des années 90, le problème, c'est que certaines grandes applications, notamment la suite bureautique Office, étant développées par Microsoft, utilisent des API Windows non documentées par Microsoft pour les développeurs extérieurs. Mais pour eux, forcément, elles l'étaient. Est disponible, hein, il suffisait d'aller frapper à la porte du bureau d'à côté. Donc, petit problème, comment développer cette solution? Et là, il y a eu une bonne idée, une idée même assez géniale, ça a été le lancement du projet, alors assez incroyable quand on connaît pas cette histoire, le projet PWI, Public Windows Interface. L'entreprise Sun Microsystems a documenté ex nihilo toute l'API de Windows, y compris l'API qui n'en était pas documentée, et a décidé, en partenariat avec d'autres vendeurs comme IBM, Toshiba, SCO, USL, Corel, WordPerfect, etc. Ils ont décidé de soumettre ça comme un standard. Ils ont décidé de proposer que l'API de développement d'une application Windows soit un standard ouvert, que n'importe qui puisse implémenter l'API pour pouvoir lancer des applications Windows sur n'importe quelle plateforme. Et donc, on le sait avec le jugement moderne qu'effectivement, on ne peut pas mettre un copyright sur une API. Malheureusement, à l'époque, la situation n'était pas claire. Et donc, devant cette situation, Microsoft s'est immédiatement emballé, a mis toute son armée d'avocats pour dire « Il est hors de question, c'est une violation de copyright, etc. C'est nous qui diffusons des versions de Windows pour les systèmes Unix dans ce cas. » Et de toute façon, à côté, Microsoft était en train de développer Windows NT qui a assez facilement explosé le marché des stations de travail Unix. Donc l'histoire, malheureusement, s'est arrêtée là grâce bah, un gros effort de lobbying et aussi de, bah, clairement de FUD, comme on dit, donc peur, incertitude et doute, Microsoft a coulé cet effort de standardisation.
C'est pas le FUD le plus connu, parce qu'il ouais, y avait le FUD sur BIOS, le FUD sur tout ce qui était distribution de systèmes alternatifs,
ah oui,
pas
oui,
de compact.
Celui-là n'est pas le plus connu. Et, mais quand on y pense, c'est assez dommage finalement que Microsoft ait choisi cette voie-là, parce que je pense pas que ça leur aurait fait du mal s'il y avait eu ce standard, mais par contre, ça aurait abouti à une situation complètement différente à la fin des années 90 et au début des années 2000. Parce qu'on est arrivé, fin des années 90, on est arrivé à la situation où ben, développer une application pour... ben oui, mais je veux faire une application, mais il faut qu'elle marche pour Windows, pour macOS. Si je veux aussi cibler Linux, système Unix, ben, c'est compliqué. Qu'est-ce que je fais? Je fais une application Java? Ouais, mais Java sous macOS, ça marche pas bien. Puis Java, il y a eu des problèmes sur Windows avec des efforts de Microsoft pour le couler. Et en fait, ça aboutit à l'apparition du web comme plateforme d'application. Est-ce que si à la place, on avait pu dire, ben, vous faites une application au format Windows en vous limitant aux API du standard, et votre application sera compatible avec Windows, avec les systèmes Unix compatibles, avec macOS, pourquoi pas, etc. Ça aurait pu aboutir finalement à une solution standardisée de développement d'applications, et peut-être qu'on n'aurait pas ce qu'on retrouve aujourd'hui, un marché qui est parti uniquement sous forme d'applications web ou un marché hyper fragmenté entre les applications iOS et les applications Android. Est-ce que finalement, cette forte standardisation, il n'aurait pas permis d'éviter tout ça? Et petite réflexion pour finir, est-ce que c'est pas quand même ce qui est en train de se produire pour les applications à minima pour les jeux vidéo, le standard est en train de devenir les applications, enfin, les API Windows, avec juste comme seule règle d'être compatible avec Proton et Wine, c'est-à-dire des implémentations libres des API Windows.
Et du coup, Wine, est-ce que ça a utilisé le travail de Wabi ou ils sont repartis de zéro?
Ils sont repartis de zéro à l'époque, c'était des projets concurrents.
D'accord, merci Pierre. Un petit point sur l'agenda à Fourmi le samedi 26 octobre. Donc, donnez une seconde vie à vos ordinateurs. Donc, au tiers-lieu Le Central, 42 rue Saint-Louis. Donc, Fourmi, c'est dans le sud du Nord. Et également, donc un peu plus proche, mercredi 23 octobre de 19h30 à 23h30 à Sisouin, un petit peu plus proche de Lille. Donc, à l'espace numérique public 311 rue Salvador Allende, mercredi Linux. Donc, et n'oubliez pas la permanence de l'association chez Linux du dernier mardi de chaque mois, donc le 29 octobre à 19h30, à partir de 19h30, place du Vieux Marché aux Chevaux au Café Citoyen Métro République Beaux-Arts. C'était le 275e numéro de l'Écho des Gnous. Tout de suite, vous avez entendu avec Chupé Pimento. Dans une semaine, c'est la deuxième ligne, donc du jazz de la Nouvelle-Orléans. Et nous, on se retrouve donc, nous serons donc le dimanche 3 novembre pour l'Écho des Gnous numéro 276. Bonne fin de week-end à toutes et à tous. Au revoir.
Bye bye.
Le livre n'est pas une jungle comme le logiciel privateur. L'écho des glous.